Le Salon de la copropriété, les 5 et 6 novembre 2025, en partenariat avec Foncia sur Radio Immo.
Je suis ravi de vous retrouver cette fois sur le salon de la copropriété et de l'habitat. Nous sommes à deuxième journée du salon après un mercredi 5 novembre qui s'est très bien passé. Et on ouvre le bal ce jeudi 6 novembre avec une table ronde sur un sujet devenu crucial pour les copropriétés, la rénovation énergétique. Parce qu'en 2025, les aides diminuent, la réglementation se renforce, je vais y arriver, mais les besoins restent les mêmes. Alors comment avancer? C'est ce que nous allons explorer avec nos trois invités. Je suis très bien entouré aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Corinna Mahé, bonjour.
Bonjour Grégoire.
Corinna,
bonjour.
Vous êtes responsable rénovation énergétique chez Foncia. Merci beaucoup d'être avec nous. Mathieu Mialaret, bonjour Mathieu.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Mathieu, vous êtes directeur métier chez Foncia. Et puis notre invité spécial qui nous connaît bien, Mathieu Ledrezen, bonjour Mathieu.
Bonjour Grégoire, bonjour.
Mathieu, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur commercial chez Axéo. Alors avec tous les trois, on va parler ensemble de rénovation énergétique. C'est notre sujet du jour. Et puis un premier thème qui est pourquoi est-ce qu'il faut se lancer maintenant? Pourquoi c'est important de se lancer maintenant? Corinna, ça bouge beaucoup. On a entendu parler de beaucoup de choses en rénovation énergétique. En quoi est-ce que cette démarche, elle est d'actualité?
Alors, la rénovation énergétique est un sujet stratégique chez Foncia en tant qu'administrateur de biens. Mais c'est aussi un sujet très important pour nos clients parce que souvent, il s'agit d'un des projets de leur vie. Et en tant que syndic, nous devons de les accompagner dès l'identification des inconforts, également pour la mise en place du projet. Donc, on les accompagne pour la mise en place technique, financière, mise en place des travaux également. Donc, c'est vraiment tout au long de la vie d'un projet de rénovation énergétique, nous sommes là en tant que chef d'orchestre. Et donc, c'est notre rôle. Donc, les clients, ils l'apprécient parce que c'est vrai que c'est un projet de transformation durable. Et donc, nous sommes là à toutes les étapes.
Mathieu, est-ce que vous considérez que c'est le bon moment pour se lancer dans des travaux, dans des projets de rénovation? Et est-ce qu'il y aurait un risque, quel serait le risque de repousser ce lancement?
C'est clair que c'est le moment de se poser la question, en tout cas, pour ne pas avoir des regrets après. Aujourd'hui, on a un écosystème qui est à peu près installé, clair, avec, c'est vrai, des aides qui sont hyper intéressantes pour la plupart des immeubles, c'est-à-dire les immeubles collectifs d'habitation principale, avec principalement des lots d'habitation occupés à titre principal par leurs occupants, pas secondaires. On sait que cet écosystème est fragile parce que ces aides, elles dureront peut-être pas tout le temps. C'est vraiment le moment de se poser la question. Voilà, le risque, si on ne le fait pas maintenant, c'est d'avoir des regrets dans 2-3 ans et d'être passé à côté de belles opportunités.
Et Corinna, la rénovation, c'est aussi un enjeu de valeur patrimoniale?
Exactement. Effectivement, en accompagnant nos clients au fur et à mesure des projets et même après, donc on échange beaucoup avec eux. Et ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que un appartement, un logement avec une mauvaise étiquette énergétique se vend beaucoup moins bien aujourd'hui.
C'est vrai.
Et des appartements, des logements se trouvant dans des copropriétés rénovées partent beaucoup plus vite et bien évidemment au juste prix.
Oui, c'est vrai qu'avant on ne regardait pas cette petite ligne DPE et à combien il est. Et maintenant on surveille quand même la note énergétique de notre logement.
Exactement, le DPE c'est un des critères que les acquéreurs regardent. Demande systématiquement, c'est quelle étiquette énergétique. Et effectivement, c'est un des sujets clés qui les font se décider en fait pour acquérir tel ou tel bien.
Et ils vous disent quoi, les copropriétaires que vous accompagnez? Est-ce qu'ils sont conscients de l'urgence?
Alors, bien évidemment, ils sont de plus en plus informés. On fait également beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, comme le disait Mathieu, nous avons des aides non négligeables, donc très importantes, notamment en copropriété. Et malgré les derniers rebondissements au sujet de MaPrimeRénov', donc MaPrimeRénov' copropriété, la subvention n'a pas changé.
C'est vrai.
Elle reste identique, au moins jusqu'à la fin de... Exactement, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et donc, c'est un des points importants aussi qui fait que les copropriétaires se décident de se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Et oui, ils sont effectivement de plus en plus conscients et ils souhaitent être mieux dans leur bien.
Vous le constatez, ce changement d'état d'esprit?
Exactement, nous le constatons de plus en plus. Nos clients cherchent effectivement d'être mieux dans leur bien, être dans un bien plus confortable, mais aussi compte tenu de la réglementation actuelle, notamment pour nos copropriétaires, propriétaires, bailleurs. Donc eux, ils sont devenus des presque véritables ambassadeurs du sujet de la rénovation énergétique parce que, comme vous le savez, ils ont des contraintes réglementaires pour pouvoir louer les logements. Donc les logements avec une étiquette G ne peuvent plus être loués. Bientôt les F. Donc effectivement, on le sait que en faisant des travaux sur les parties communes, donc ça va également avoir un impact très positif, y compris dans les logements privatifs. Et donc forcément, ils sont de plus en plus conscients. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, on peut le prouver parce qu'on a plus de 12 000 clients qui ont voté déjà la phase étude. Donc ça veut dire que c'est 12 000 logements probablement qui vont se lancer dans des travaux de rénovation énergétique prochainement. Et donc également un nombre très important qui ont déjà voté des travaux cette année et qui vont les commencer bientôt.
Donc tout ça va dans le bon sens.
Exactement.
C'est rassurant. Si on parle des grandes étapes des projets, Corina, vous avez fait une conférence sur le stand de Foncia, vous avez détaillé les grandes étapes d'un projet de rénovation. Vous pouvez nous les rappeler ici ?
Très rapidement, effectivement, on a constaté quatre grandes étapes. Donc, c'est avoir un état des lieux. Et pour avoir un vrai état des lieux, donc on va réaliser les diagnostics nécessaires pour savoir quel est le projet le mieux disant pour la copropriété. Donc nous avons aujourd'hui une très belle occasion parce que toutes les copropriétés sont en train de faire voter et réaliser les DPO collectifs et les projets de plan pluriannuel de travaux, donc qui vont permettre aux copropriétaires d'avoir une idée de tous les scénarios de travaux possibles et puis surtout de l'état, y compris énergétique, de leur copropriété. Donc, bon diagnostic. Ensuite, effectivement, en se basant sur ça, on va travailler sur la phase d'après, phase étude. Là, on va être entouré par des acteurs de l'écosystème de la rénovation énergétique, le maître d'œuvre et bien évidemment aussi l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va accompagner les clients pour la partie plan de financement notamment, et puis aussi ensuite l'étape d'après, grâce à tous les éléments qu'on va avoir de la phase étude, on va se lancer dans la phase travaux, et puis bien évidemment même après travaux avec le service après-vente, et pourquoi pas faire aussi un bilan énergétique post-travaux.
Eh ben, magnifique passe en profondeur. Mathieu Le Drezen, vous êtes avec nous. À quel moment est-ce que l'AMO il intervient justement, et puis pourquoi faire précisément?
Eh bien, comme l'a dit Corina, en réalité, à partir du moment où on a des données techniques et énergétiques sur la copropriété, donc basées sur un 3PT ou un DPE, on est en capacité d'avoir l'étiquette énergétique actuelle et les projections travaux en disant voilà les scénarios qui permettraient d'atteindre telle ou telle lettre et de bénéficier des subventions, donc MaPrimeRénov copropriété. Donc le rôle de l'AMO, il est d'utiliser la donnée disponible. Donc dès qu'on a un DPE collectif et un 3PT, un AMO peut être sollicité pour venir projeter le potentiel de rénovation énergétique et surtout entrer dans la danse de la fameuse phase de pédagogie, c'est-à-dire convaincre la copropriété d'engager les travaux, en tout cas de réfléchir à l'engagement des travaux. C'est l'élément majeur aujourd'hui, c'est de pouvoir définir avec eux l'intérêt de ces travaux et qu'ils le comprennent.
Et est-ce que l'AMO, il est le même sur tous les projets ?
Alors, il peut. Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui est fixé par l'ANA pour bénéficier des aides. Donc, il y a des phases programmées sur l'étude, justement, la validation du potentiel de gain énergétique, sur l'ingénierie financière, sur l'accompagnement au choix des entreprises et sur la réalisation jusqu'à parfait achèvement. Donc, on a une continuité, en réalité, d'action sur l'AMO à différents niveaux. L'objectif, c'est d'être toujours présent et de s'assurer que ce qui aura été initié dans un projet va aller au bout dans les bonnes conditions énergétiques. Donc globalement, je peux projeter, si j'ai prévu de faire 35% ou 40% d'économie d'énergie, qu'à la fin, les copropriétaires aient l'étiquette énergétique correspondante.
C'est quoi les points les plus délicats à cadrer dans la phase de montage ?
Alors, le premier point, je l'ai dit, c'est déjà de s'assurer qu'on a embarqué les personnes impliquées dans la copropriété pour la réalisation de ce projet. C'est-à-dire un conseil syndical moteur, évidemment un gestionnaire de copropriété qui connaît les tenants et les aboutissants et qui va embarquer sa copro, c'est le premier sponsor d'un projet de travaux, et l'AMO, donc c'est une coordination pour bien faire comprendre les intérêts de ce projet à l'ensemble des copropriétaires, mais en sélectionnant nos sponsors au début. Et ensuite, il y a vraiment une phase qui va changer en général beaucoup de choses, c'est qu'on part toujours du principe que c'est des projets de grande envergure, des projets de rénovation à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, parce qu'on a tendance à faire des projets globaux, hein, si on veut atteindre des performances supérieures à 35%. Et il y a une notion qui va être très forte, c'est la capacité à transformer un projet global avec de gros montants en réflexion sur le long terme avec une mise à plat, on va dire, du budget et que chaque copropriétaire puisse se l'approprier. Par exemple, ça c'est le rôle vraiment d'ingénierie financière, de venir expliquer que plusieurs millions se transforment en quelques dizaines d'euros par mois quand je le projette sur plusieurs années, compensé par des économies d'énergie, donc une réduction de la facture.
Ouais. Oui, il faut bien expliquer. Hein, c'est très important de faire preuve de pédagogie.
C'est le nerf de la guerre aujourd'hui en copropriété. Je pense que mes interlocuteurs fonciers le confirmeront et le savent mieux que moi. Un copropriétaire qui ne comprend pas aujourd'hui ne vote pas. Des copropriétaires ensemble qui ne comprennent plus, le projet tombe à l'eau.
J'allais vous demander justement en quoi l'AMO faisait la différence face au vote en AG.
Justement, avec une préparation, une pédagogie. L'objectif, c'est des réunions d'information, un espèce de guichet d'information et de compréhension du projet avec des réunions intermédiaires avant décision en Assemblée Générale ou avant présentation en Assemblée Générale pour que l'ensemble des copropriétaires ne soient pas surpris et ne découvrent pas le sujet quand on arrive en Assemblée Générale et qu'il s'agit de donner son go à un maître d'œuvre, des diagnostics et des travaux avec de l'ampleur. Donc, là, on ne parle pas d'aller s'acheter une baguette de pain. Hein.
Allez, voyons ensemble comment on peut mobiliser la copropriété. Corinna, est-ce que le vote en AG, il reste bloquant et comment est-ce qu'on peut préparer les copropriétaires?
Alors, je dirais que grâce à une bonne préparation, en fait, le vote en Assemblée Générale doit être juste...
Une étape.
Exactement. Parce que, comme le disait Mathieu, il est important de communiquer et de préparer en amont, en fait, tout le dossier. Donc, dès la phase étude, en préparant donc la partie technique avec le maître d'œuvre, quels sont les travaux, peut-être faire d'autres diagnostics. Il y a des diagnostics obligatoires à faire avant travaux, comme le RAT, donc c'est l'amiante, la recherche de l'amiante. Donc effectivement, tout au long en fait, du process, il faut préparer et surtout communiquer à nos clients. Donc Mathieu a développé la partie d'ingénierie financière. Donc pareil, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Il est très important de faire des réunions systématiques également avec l'AMO. Souvent, on nous le demande, hein, donc avec la présence de l'AMO, notamment également pour réaliser certaines enquêtes sociales, hein, pour les aides individuelles notamment. Donc c'est vraiment une préparation tout au long de la phase étude. Et puis ensuite, faire une réunion d'information à l'attention de tous les copropriétaires. Bien évidemment, notre interlocuteur privilégié, c'est le conseil syndical, mais il est très important d'embarquer toute la copropriété. Et donc cette réunion d'information où on va rendre compte un peu des résultats de la phase étude, du plan de financement, va rassurer tout le monde. Ouais. Et effectivement, le vote en Assemblée Générale pourra être qu'une formalité.
C'est ça, ouais. Mais j'allais vous demander, en fait, tous les résidents ne font pas partie du conseil syndical. Comment est-ce qu'on les implique tous là-dedans?
Justement, donc grâce à des réunions systématiques, à notre présence aussi.
Il faut vraiment faire attention que tout le monde soit concerné.
Que tout le monde soit informé. Donc là, on va utiliser des push infos d'informations à l'attention de tous les clients.
Que vous allez utiliser, ouais.
Exactement. On pourra faire aussi de l'affichage pour les résidents qui ne sont pas copropriétaires, mais locataires, mais au moins qu'ils soient aussi informés des démarches de travaux qui vont arriver par la suite. Donc vraiment, c'est un travail tout au long en fait, du projet et ne pas arriver à l'Assemblée Générale des copropriétaires qui va voter les travaux avec tous ces éléments. Donc, voilà.
Mathieu, il y a aussi un enjeu quand même de calendrier, de contraintes de chantier. Il faut faire attention à tout ça, il faut les avoir en tête.
Tout à fait. Aujourd'hui, une grosse rénovation énergétique, donc une rénovation globale qui permet d'atteindre des niveaux donc pour MaPrimeRénov'CoPro. C'est en général une opération sur plusieurs mois qui va s'étaler en général sur plusieurs exercices d'une copropriété. Donc on prend la décision en Assemblée Générale, ce qui va ensuite amener à passer des commandes et puis à préparer le chantier. Donc il y aura encore une phase très préparatoire avant même qu'on ait posé, je dirais, la première pierre. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur une opération one shot où vous dites bon bah d'un seul coup, une fois que j'ai commandé en assemblée générale, le lendemain on attaque et c'est terminé dans deux jours. Donc on est sur des travaux longs. Il y a aussi en général des réunions d'information pour où est-ce qu'on en est. Le calendrier doit être affiché.
Aussi les coûts, la transparence des coûts, tout ça.
Exactement, c'est... exactement. Il y a des éléments. Alors on a aujourd'hui une phase un peu plus stable, notamment sur la tarification. Ouais. On a eu des périodes post-Covid où c'était très compliqué parce que les entreprises avaient une très faible visibilité sur les coûts des matériaux. C'était très fluctuant. Et on a eu des moments où on était quasiment à avoir des entreprises qui refusaient de mettre un devis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale parce que le délai entre je vous demande un devis, il est mis dans la convocation, il est éventuellement voté, comme il y a un délai potentiel de contestation, je vais avoir une réponse que dans 4 à 6 mois. Ce délai est trop long pour que je puisse garantir mon prix. Donc aujourd'hui, on demande une transparence plus forte et on a une visibilité beaucoup plus accrue sur la stabilité des prix.
On va discuter un peu de financement et voir quels sont les leviers aujourd'hui de financement. Alors je me tourne vers vous, Mathieu. On l'a dit, les aides, elles seront pas éternelles. Hein. Quelles solutions il nous reste aujourd'hui ?
Alors les aides, on espère qu'elles seront éternelles, mais malheureusement, c'est relativement peu probable. Alors aujourd'hui, elles sont très importantes. Hein. Ouais. Alors déjà, pour poser le sujet, en moyenne, une rénovation énergétique globale dans une copropriété, c'est 30 000 euros par copropriétaire.
Okay.
Donc ça, c'est une somme qui est évidemment très importante.
C'est non négligeable. Ouais.
Les aides aujourd'hui représentent environ un tiers. Il y a MaPrimeRénov' et des aides complémentaires, on va dire la valorisation des C2E, des aides locales. Un tiers, ça fait 10 000 euros, c'est déjà beaucoup, mais il reste 20 000 euros à financer.
Et reste à charge important.
Ouais, reste à charge hyper important pour la plupart des copropriétaires. Ça peut sembler être une montagne infranchissable. Ouais. Alors il y a un moyen, un outil extrêmement performant qui est d'ailleurs en partie aidé aussi, hein, c'est l'emprunt, et notamment l'emprunt à taux zéro.
Ouais.
Et en copropriété, on a un système d'emprunt collectif, alors qui aujourd'hui est encore un peu hybride, mais c'est sûr que le financement idéal, c'est évidemment les aides pour 30% et les 70% restants étalés dans un emprunt à taux zéro pendant jusqu'à 20 années. Donc ça permet d'étaler et évidemment de différer le paiement en bénéficiant des compensations d'économie d'énergie qui viennent diminuer le montant du remboursement à faire.
Et il est plus facile à faire aujourd'hui l'emprunt collectif ?
Alors aujourd'hui, il est encore complexe parce qu'il s'appelle emprunt collectif aujourd'hui, ouais. Hein, mais c'est en fait un emprunt hybride.
J'imagine qu'il y a une variation de revenus quand même entre tous les emprunteurs.
Oui, alors c'est pas une question de revenus, c'est plus une question d'éligibilité.
D'accord.
Et puis surtout une question d'adhésion individuelle. C'est-à-dire que même si on appelle ça un emprunt collectif qui est voté en Assemblée Générale, les copropriétaires pour en bénéficier doivent faire une démarche individuelle, déposer un dossier. Okay. Quand vous avez 500 copropriétaires dans une copropriété ou même 50...
Il faut étudier la solvabilité de 500 personnes.
Alors c'est pas tant une question de solvabilité encore une fois, c'est l'intérêt de l'emprunt collectif.
Okay,
c'est que si on est à jour de ses charges, en gros on est éligible.
D'accord.
Mais en revanche, on n'est pas éligible si on est une personne morale, on n'est pas éligible si le bien est à usage d'habitation secondaire ou pas à usage d'habitation. Donc on n'est pas encore forcément éligible, ce qui fait que pour certains copropriétaires, il n'y a pas de solution d'emprunt collectif. Et puis, il faut faire un dossier complexe. Si on vend, on rembourse instantanément le capital restant. Ouais. Donc, ce n'est pas encore vraiment un emprunt collectif.
Okay.
En revanche, et ça, je suis fier de dire que Foncia y a beaucoup contribué, on a dans la loi aujourd'hui un emprunt réellement collectif, c'est-à-dire la possibilité pour l'Assemblée Générale de décider que c'est le syndicat des copropriétaires qui va emprunter. C'est-à-dire le syndicat des copropriétaires va emprunter pour tout le monde, pour l'ensemble du reste à charge. Il y aura un seul dossier. Tous les copropriétaires seront éligibles. Si le syndicat est éligible, tous les copropriétaires sont éligibles. Et surtout, cet emprunt, il sera attaché au lot. Ça deviendra une charge de copropriété et non pas une charge individuelle. C'est-à-dire qu'en cas de vente, il ne sera pas remboursé, il sera transmis à l'acquéreur. C'est hyper important parce que ça vient régler le problème de tous ceux qui ont du mal à constituer un dossier. Il y en a plein, hein, phobie administrative ou simplement, je suis passé à côté, je n'ai pas constitué le dossier. De tous ceux qui ont le projet de vendre à court terme, parce que là, ce sera attaché au lot et donc ce ne sera pas un frein à la décision. Et puis de tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas éligibles parce que le lot n'est pas à usage d'habitation principale. Le seul truc, c'est que ça existe dans la loi. Tout l'écosystème réglementaire est en place. Il y a des décrets qui sont parus cet été. Il n'y a pas encore d'offres dans les banques. Mais ça ne saurait tarder. On met la pression sur les partenaires bancaires pour que ça arrive.
S'ils nous écoutent, qu'ils accélèrent. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment identifier les copropriétés qui sont éligibles aux aides ?
Alors, l'aide principale aujourd'hui, on l'a dit, hein, c'est MaPrimeRénov'.
Ouais, tout à fait.
Donc, il faut être un syndicat de copropriétaires, immatriculé au registre des copropriétés de l'ANA. Il faut qu'il y ait au moins, alors je dirais c'est environ 60%, ça dépend de la taille de l'immeuble, mais en gros les grandes masses c'est 60% de l'eau à usage d'habitation principale. Je crois que c'est 65 et 75 dans les plus gros. Okay. Et voilà, il faut une forte majorité de l'eau à usage d'habitation principale. Et puis après, bah, je dirais, il faut qu'il y ait une possibilité de travaux pour arriver à un gain d'économie d'énergie d'au moins 35%. Voilà, donc il faut qu'on puisse faire des travaux. Hein. On ne peut pas toujours. Hein. Si l'immeuble est déjà au bout de ce qui est possible de faire, on ne saura pas atteindre 35%. Néanmoins, dans beaucoup d'immeubles, c'est possible. Dans la plupart des immeubles, c'est possible. Et maintenant, on le sait très bien grâce au projet de plan pluriannuel de travaux. Chez Foncière, on a demandé à nos partenaires qui font les projets de plan pluriannuel de travaux d'intégrer cette question. Est-ce que l'immeuble pourra être éligible à MaPrimeRénov'? Donc on le sait dès que le diagnostic est fait, en fait.
Est-ce qu'on peut proposer des solutions différenciées selon les profils des copropriétaires?
Bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, on est obligé de proposer des solutions différenciées parce que tous les copropriétaires ne sont pas éligibles à l'emprunt collectif à taux zéro. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de ne plus être obligé d'en proposer et d'avoir la solution idéale à laquelle tout le monde sera éligible. C'est vraiment cet emprunt réellement collectif dont je parlais. Ouais. Ça permettra d'avoir des subventions qui profitent à tout le monde, puis une solution de financement qui profite absolument à tout le monde. Et à taux zéro, tout le monde adhère. L'emprunt à taux zéro, il n'y a aucune raison de ne pas adhérer.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour rendre le financement plus acceptable à ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il existe des effets de levier pour des économies futures?
Ouais, alors le financement, encore une fois, hein, je ne vais pas me répéter trop, mais l'emprunt à taux zéro, c'est la solution idéale. Si tout le monde est éligible, on pense que nous, on règle le problème du reste à charge. Ouais. Et alors, on va le régler d'autant plus, mais là, ça va dépendre. Vous parlez d'effet de levier du financement. En fait, aujourd'hui, on considère que la cote-part moyenne de chauffage, c'est 1500 euros par copropriétaire, c'est évidemment très variable. Hein. Avec un gain d'économie d'énergie de 35%, bah, ça fait plus de 500 euros par an d'économiser. Et ce n'est pas encore tout le remboursement annuel de l'emprunt collectif, mais c'est déjà une grande partie, c'est plus d'un tiers. Si demain, les prix de l'énergie, qui aujourd'hui sont hyper bas, se mettent à augmenter, comme ça a été le cas il y a 3 ou 4 ans, et qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire, ce qui est quand même le plus probable, c'est assez improbable qu'il y ait à nouveau un bouclier tarifaire si ça se reproduit, mais là, en fait, le remboursement de l'emprunt, il sera 100% compensé par les économies d'énergie. Et donc, finalement, ça deviendra neutre. Hein, le seul moyen de maîtriser les charges d'énergie aujourd'hui, on a beau acheter l'énergie le mieux du monde, si les marchés s'emballent, on est foutu. Le seul moyen, c'est de consommer moins. Voilà. Et puis après, il y a un autre levier d'économie, c'est de se dire que quand on fait une rénovation énergétique globale, mais on contribue aussi à l'entretien de l'immeuble. C'est-à-dire que si vous faites une isolation thermique sur une façade, vous n'avez plus de ravalement à faire pendant 20 ans. Si vous isolez une toiture, vous n'avez plus de toiture à faire pendant 30 ans. Quand vous changez la chaudière et vous faites la chaufferie, bah vous êtes parti pour 20 ans. Et donc, on a énormément d'immeubles qui, aujourd'hui, doivent faire des travaux. En faisant la rénovation énergétique globale, en fait, ça leur revient finalement moins cher. Parce qu'ils ont les subventions, ils ont l'emprunt à taux zéro, qu'ils n'auraient pas s'ils finançaient uniquement une toiture ou un ravalement. Donc, finalement, on a des cas où c'est moins cher de faire une rénovation énergétique globale que de simplement entretenir l'immeuble.
C'est important de le noter parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant.
C'est ça, et c'est pour ça qu'avec l'aide de l'AMO, avec nos experts de la rénovation énergétique chez Foncière, il faut préparer le dossier, comme l'a bien dit Corinna.
Alors Corinna, justement, j'aimerais qu'on parle, avant de conclure, un peu de résultats concrets. Est-ce que vous pouvez, prendre la parole après, me partager un exemple de projet réussi avec des économies d'énergie qui ont été réalisées, des impacts peut-être sur l'étiquette du DPE, du diagnostic de performance énergétique, et pourquoi pas une augmentation de la valeur des biens si elle a été constatée.
Alors, nous sommes fiers de dire qu'on a été chef d'orchestre dans le cadre des projets de rénovation énergétique pour 37 000 logements. Okay. À date. Donc nous avons aujourd'hui 37 000 logements qui ont voté des travaux de rénovation énergétique et Foncia, entouré des partenaires, nous avons pu donc les accompagner dès l'identification des inconforts et du projet tout au long des travaux et jusqu'à la fin des travaux. Donc effectivement, on a beaucoup de belles réussites. Ce n'est pas toujours facile, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a des projets qui sont longs parce qu'on a dit que c'est des projets effectivement de transformation durable malgré tout. Mais je vais citer un ou deux exemples. On a une très belle rénovation qui est en train de se finaliser à Kron, donc une copropriété de plus de 300 logements qui a voté et a fini, presque fini les travaux de rénovation énergétique. Ils ont une étiquette à date C. Donc les copropriétaires sont ravis de leur logement et des travaux réalisés. Ils ont bien évidemment aussi bénéficié des aides. Ils ont pu profiter également d'un éco-PTZ pour financer le reste à charge. Et donc, effectivement, on peut dire avec fierté que les clients, à date, sont très contents des travaux réalisés. Et je l'espère qu'ils le seront au moins sur les 20 prochaines années, comme le disait Mathieu.
Messieurs, si vous avez envie de rajouter quelque chose.
Je dirais que pour donner des exemples concrets ou des chiffres concrets, aujourd'hui, chez Axéo, on va atteindre environ 12 000 études réalisées pour des copropriétés.
Okay.
Donc c'est des milliers de logements, hein, 12 000 copros en France sur lesquels on a fait DPE collectif et projet de plan pluriannuel de travaux. La proportion, c'est que globalement, dans un cas sur deux, à peu près 50%, il y a la possibilité d'aller chercher des niveaux de performance, on va dire seuil MaPrimeRénov', hein, donc supérieur à 35%. Et en cas concret, voilà, on embarque aujourd'hui des dizaines de copropriétés, et des centaines de copropriétaires chaque année dans des projets de rénovation et qui sont globaux. Pour revenir à ce que disait Mathieu tout à l'heure, le côté très intéressant, c'est de pouvoir dire je traite l'économie d'énergie, j'améliore le patrimoine et j'ai même parfois, c'est le cas sur une copropriété qu'on a accompagnée à Nantes, une réflexion architecturale sur comment j'embellis ma copropriété parce que je vais faire un ravalement, j'isole. Et je peux améliorer avec une réflexion autour des balcons, des garde-corps, des volets roulants, etc. Et donc, il y a du confort, de l'esthétique et de la performance énergétique.
Mathieu, si vous avez envie de rajouter quelque chose en plus.
Non, bon, alors c'est Corinna qui suit les dossiers de manière très opérationnelle. Mais les retours qu'on a, c'est que les copropriétaires sont toujours contents quand les travaux se sont bien passés. Et pour ça, il faut vraiment être entouré par des experts. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que ça reste, on a vu toutes les étapes, il y a beaucoup d'intervenants, et donc il faut qu'il n'y ait pas de grain de sable dans l'ensemble des rouages. Mais quand ça se passe bien, évidemment, tout le monde est gagnant, le propriétaire bailleur, le propriétaire occupant, tout le monde voit son patrimoine se valoriser, et les gens sont ravis. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça se passe bien, et donc il faut s'adresser aux bonnes personnes.
Allez, justement, quel message fort est-ce que vous souhaitez adresser aux copropriétés qui sont hésitantes avant de se lancer ? Corinna.
Alors, bien évidemment, donc en parler à leur syndic, bien sûr, parce que le syndic, encore une fois, intervient comme chef d'orchestre. Les copropriétaires, comme je le disais, ils sont très informés également. Mais posez le bon diagnostic, ne vous précipitez pas. Faites-vous bien entourer par des professionnels. Établir, bien évidemment, un projet technique, mais aussi un projet de financement juste. Grâce à tous ces acteurs, on l'espère, que ce beau projet de rénovation énergétique devienne une belle aventure commune, mais aussi personnelle. Parce que ce qui compte au final, c'est que tous les copropriétaires soient contents et ravis des travaux réalisés.
Mathieu ?
Je pense que le message principal a été dit, c'est qu'il faut que tous les acteurs du projet travaillent ensemble.
Ouais.
Pour convaincre les copropriétaires.
C'est un projet de groupe.
C'est un projet de groupe. Aujourd'hui, on peut pas. Un acteur tout seul dans ce grand projet ou dans cette filière de la rénovation énergétique ne peut pas réussir seul. C'est une vraie roue crantée avec les syndics, les professionnels du bâtiment, les entreprises de travaux et bien entendu les copropriétaires qu'on doit accompagner et motiver.
Mathieu, même si vous nous avez un peu dit, il faut que ça se passe bien.
Oui, mais le message, c'est celui que je donnais au tout début aussi, c'est posez-vous la question, vraiment, maintenant. Les conseils syndicaux, si je m'adresse à eux, aujourd'hui, vous avez les DPE collectifs, les 3PT, ils ont été faits dans l'écrasante majorité des copropriétés. Vous avez tout en main pour vous poser la question maintenant, au moment où probablement les conditions sont les plus intéressantes. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser la question pour ne pas avoir de regrets demain.
Un grand merci à tous les trois pour cette table ronde. J'étais ravi de l'avoir faite avec vous.
À vous qui nous écoutez,
je vous donne rendez-vous alors sur le site de Foncia. Vous retrouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux de Foncia, de Radio Immo, sur le site de Radio Immo et sur l'application dédiée de Radio Immo et puis sur les agrégateurs de podcasts. Donc vous pouvez nous retrouver partout. Aucune excuse pour ne pas nous écouter. Je vous souhaite un bon salon de la copropriété et de l'habitat et puis je vous dis à très bientôt.
Le salon de la copropriété, les 5 et 6 novembre 2025, en partenariat avec Foncia sur Radio Immo.